Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'Un jour dans le monde nous emmène ce soir en Afghanistan avec les interprètes de l'armée française, ex-interprètes de l'armée française. Ils aidaient les soldats, mais maintenant que les soldats sont partis, que deviennent ces hommes? Ils sont en danger, en attente de visa, on le verra ensemble. 18h40, l'actu en série et Sandy Dauphin avec une association qui a déjà mis à l'épreuve des faits certains grands argentiers, qui avaient promis d'investir vert lors du dernier sommet, c'était la semaine dernière à Paris. Vous verrez qu'entre les promesse et la réalité, eh bien, il y a de l'espace. La revue de presse des correspondants de France Inter à Rome et à Moscou ce soir. 18h55, l'édito de Christophe Ayad du journal Le Monde et cette question discutée avec Bachar. Bon, bah d'accord, mais pour parler de quoi exactement? Mais tout de suite, depuis dimanche, vous savez que l'Autriche a des ministres régaliens d'extrême droite. Aujourd'hui, le chancelier est en visite à Bruxelles. Une ligne très droite assumée. Et après,
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Wir haben heute beide den Bundespräsidenten über das Programm, aber auch über das Team informiert.
C'est Sébastien Kurz qui parle, le tout jeune chancelier qui annonce son gouvernement dimanche soir. Donc, 6 ministres d'extrême droite, dont le vice-chancelier, ici d'ailleurs remercié, patron du FPO, le parti d'extrême droite. Et puis ses ministres régaliens, donc ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Ce jeune chancelier, il est à Bruxelles aujourd'hui. Premier voyage hors des frontières depuis dimanche, depuis que ce gouvernement a été formé. Bonsoir Patrick Moreau.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Autriche. Et merci à Cyril Sauvageau qui prête son studio et son appartement à Berlin pour les moyens techniques. Aujourd'hui, je le disais, Patrick Moreau, Sébastien Kurz est avec Jean-Claude Juncker. Au fond, très gros symbole d'une Europe qui peut rien faire d'autre que d'entériner des choix électoraux et un gouvernement.
Oui, tout à fait. Simplement, c'est une évolution qui était déjà présente en Europe depuis longtemps. C'est-à-dire que par-delà le groupe de Vinograd, c'est-à-dire les pays de l'Est qui se sont positionnés contre la politique migratoire de l'Europe.
Donc Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie.
Tout à fait. Vous avez le Danemark aussi qui appartient. Et vous avez un certain nombre de pays maintenant, le pays des Balkans ou la Bulgarie, etc., qui sont dans des positions absolument identiques. C'est-à-dire que l'Europe a véritablement éclaté en deux blocs. La grande nouveauté, c'est évidemment pour la première fois un pays de l'Ouest, l'Autriche, est passée du côté des opposants à la migration.
Et c'est d'autant plus important quand même que c'est l'Autriche qui préside l'Europe au deuxième semestre 2018, c'est bien le deuxième semestre si je ne m'abuse, ça veut dire quelque chose d'extrêmement important, ça veut dire qu'il peut se passer des choses d'ici là, non?
Oui et non, parce qu'il y a quand même une politique d'unanimité dans les décisions. Mais il est certain que Kurz l'a annoncé d'ailleurs tout de suite. Sa première démarche sera effectivement de réclamer un sommet migratoire. Pour effectivement, il faut voir que Tusk l'a dit lui aussi, la politique migratoire telle qu'elle a été définie jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. La relocalisation des migrants est un échec. Donc effectivement, c'est la priorité et c'est surtout la priorité dans l'esprit autrichien.
Est-ce que ça veut dire que Vienne peut prendre le leadership de ce fameux groupe dont vous parliez, donc avec le Danemark que j'avais oublié, mais la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie? Est-ce que d'une certaine façon, avec un pays de l'Ouest, comme vous dites, ils ont trouvé leur leader ou pas?
Non, la position de Kurz est beaucoup plus habile. En fait, il l'a dit dans son discours d'intronisation, pratiquement, il voit l'Autriche comme un pont entre l'Est et l'Ouest. Il faut voir le passé autrichien. L'Autriche a été, avec la monarchie Kaunka, un pays qui, effectivement, était en alliance ou possédait des régions jusqu'à l'Ukraine. Oui. Donc, de tout temps, il y a un enracinement autrichien à l'Est. Mais je pense que Kurz a parfaitement compris que rallier, par exemple, la politique d'Orban n'était pas du tout portante à l'avenir. Son rôle fondamental est de faire évoluer les choses. Il va aller aussi loin que possible en évitant un conflit majeur à la fois avec la Commission européenne et bien sûr avec le Tribunal européen. Tribunal de justice européen.
Je vous pose la question aussi parce qu'il y a d'autres sujets qui vont forcément être soulevés, et y compris autour de l'Europe. On sait qu'il y a un certain nombre de parlementaires du FPO qui ont été invités par Vladimir Poutine à aller en Crimée. On sait bien que l'annexion de la Crimée n'est évidemment pas reconnue par l'Europe. Qu'est-ce qui peut se passer aussi autour de ces questions-là?
D'abord, on peut remarquer que Poutine a financé indirectement le FPE. Je crois que les éléments d'information sont tout à fait cohérents sur ce plan. Le FPE a annoncé qu'effectivement, il mènerait campagne contre les mesures de coercition contre la Russie et qu'il aurait pratiquement un droit de veto là-dessus. De facto, lorsqu'on analyse la géographie politique européenne actuelle, on peut définir Kurz comme étant l'anti-Macron. C'est vraiment l'antithèse des positions de Macron. Et pratiquement, il est en train de constituer ce qu'on pourrait appeler un front anti-Merkel. Madame Merkel est l'élément central, si vous voulez, de la problématique des réfugiés. Et donc, il est en train de regrouper autour de lui tous les éléments qui sont hostiles à la poursuite du phénomène migratoire.
Et d'ailleurs, vous avez sûrement constaté comme moi qu'on a entendu Nathalie Loiseau, par exemple, ministre des Affaires européennes, mais on n'a pas entendu Emmanuel Macron, à moins que je me trompe. On n'a pas entendu Angela Merkel non plus, depuis l'élection de dimanche, si ?
Si, Madame Merkel a...
Tant pour moi. C'était pas une grande déclaration. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle était aussi extrêmement prudente. Je crois que chacun attend de voir un petit peu quelle va être la densité de l'offensive de Kurz. Mais fondamentalement, je crois que le projet Macron est considéré comme le projet que rejette fondamentalement l'Autriche.
Patrick Moreau, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre quand même ce qui s'est passé en Autriche et pourquoi on est dans cette forme de banalisation et de normalisation de l'extrême droite finalement. On se souvient des dernières élections présidentielles, on se souvient de ce mano à mano qui a finalement été gagné par un vert. À l'époque, on s'en était beaucoup félicité en Europe. Est-ce que finalement, il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir de notre côté à nous ?
C'est tout à fait évident. D'abord, la défaite du FPE était quand même à 46% des voix, ce qui est quand même un signal extrêmement fort.
C'est très haut, ouais.
Oui, c'est pour le moins très haut. Et deuxièmement, si vous voulez, c'est d'abord, lorsqu'on regarde le FPE, c'est un parti qui a ses racines depuis 1949 dans le système politique autrichien. C'est un parti qui a déjà été associé plusieurs fois au pouvoir avec les sociaux-démocrates et avec les conservateurs. C'est un parti qui s'est complètement normalisé. Lorsque vous aviez Jörg Haider à la tête du FPE, Jörg Haider, c'était un petit peu le diable en personne. Il était antisémite, il était pro Saddam Hussein. Bon, il représentait véritablement une force difficile à accepter. Lorsque Strache récupère en 2005 le parti, il tire des leçons, si vous voulez, de l'échec de Jörg Haider, et en fait, il va normaliser le parti. Et ça va être un travail très dense, très systématique. Il va expulser du parti tous les éléments, je dirais, les plus radicaux, extrémistes de droite, au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de skinhead, il n'y a plus de service d'or, etc., etc. Et il va, en fait, s'enraciner à tous les niveaux de la société européenne, de la société autrichienne, tant au niveau communal qu'au niveau régional qu'au niveau national. Et lorsqu'on interroge, par exemple, les Autrichiens aujourd'hui sur la normalité du FPE, vous avez 75% des Autrichiens qui disent « mais il s'agit d'un parti tout à fait normal ». Donc, en soi, la marche au pouvoir, que d'ailleurs j'avais annoncée il y a déjà un certain temps, du FPE était inscrite, en fait, dans le sentiment collectif.
Et vous dites, effectivement, il n'y a plus de skinhead, il n'y a plus ces espèces de défaits extérieurs d'extrême droite. Est-ce que ça veut dire réellement que tous ces gens se sont rachetés une virginité? Quand on regarde le pédigré, y compris de ceux qui sont entrés au gouvernement ou qui sont ministres régaliens, est-ce qu'on peut dire avec certitude, ce ne sont pas des antisémites, non, ce ne sont pas réellement des néo-nazis qui le suivent. Est-ce qu'on peut dire les choses aussi clairement que ça pour l'Autriche ?
On ne peut jamais dire ce genre de choses parce qu'il est très difficile de voir dans les cerveaux. On peut simplement voir du côté du FPE, comme d'ailleurs de la totalité des partis d'extrême droite en Europe, une ligne pro-israélienne. Bon, ils sont devenus pro-israéliens par hostilité au monde islamique, au monde musulman. Ça correspond aussi à une parfaite lecture, si vous voulez, des sentiments collectifs. Ils ont parfaitement compris qu'avec l'antisémitisme, on ne pouvait pas gagner une bataille électorale. Par contre, avec une politique de lutte contre l'islam politique, il est parfaitement possible d'obtenir une majorité en Autriche.
D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, vous m'arrêtez si je me trompe, est finalement sur une même ligne que celle de Trump vis-à-vis de Jérusalem capitale, par exemple, non ?
Oui, tout à fait. Ça a été la première proposition du FPE. D'ailleurs, ça leur a pas servi à grand-chose, mais ça a été la première proposition, effectivement, installer l'ambassade d'Autriche à Jérusalem. Il faut dire que la réaction de Kurz a été quand même assez froide sur ce plan.
Alors quand même, On a beaucoup dit effectivement que probablement, et vous le disiez aussi d'ailleurs, l'arrivée de ce parti au gouvernement était probablement quelque chose d'inévitable. De là à donner des ministères régaliens, de là à donner quand même la défense, l'intérieur, les affaires étrangères. Est-ce que Kurz était obligé d'aller jusque-là ?
Oui, dans une certaine mesure, oui. Il n'y avait que deux options. C'était soit de nouveau le report d'une grande coalition, la remise en place d'une grande coalition dont les Autrichiens ne voulaient plus. Et la seule possibilité qu'avait Kurz, à part un gouvernement technique qui de toute façon n'aurait pas fonctionné très longtemps, pour changer la société, parce qu'il faut voir que Kurz est un démiurge, c'est quelqu'un qui veut en profondeur faire changer la société autrichienne. Le seul partenaire qu'il avait pour arriver à ce résultat était effectivement l'extrême droite. Donc il n'avait pas d'autre partenaire possible.
Une dernière question pour vous, Patrick Moreau. Qu'est-ce que ça dit, en quoi ça parle aux voisins allemands quand même, cette situation autrichienne qui bataille elle aussi avec son extrême droite et son entrée au Parlement, peut-être avec les Bavarois principalement, qui sont peut-être plus proches des Autrichiens. Qu'est-ce que ça dit quand même de ses alliés ou pas d'Angela Merkel et de cette difficulté à monter une coalition ?
Ah ben ça, c'est l'avenir de Madame Merkel qui est évidemment remis en cause, je dirais, à l'extérieur. Elle est déjà remis en cause à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est tout à fait évident. La CSU, son premier geste a été pratiquement d'inviter Kurz à venir et à voir dans la victoire de Kurz le fait que des conservateurs puissent gagner des élections. Donc c'est une remise en cause effectivement aussi de la politique migratoire de Madame Merkel. Ça ne fait que renforcer tous les éléments critiques au sein de la CDU qui veulent effectivement soit un changement de direction, soit un changement d'orientation.
Et voilà, ce sera l'occasion de revenir nous en parler, de parler à Cyril Sauvageau, qu'on remercie encore et qui est à vos côtés, qui nous parlera de la suite de ces événements-là. Merci beaucoup, Patrick Moreau, docteur en histoire, chercheur au CNRS et spécialiste aussi de l'Autriche dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite est en Afghanistan avec les interprètes afghans, anciens interprètes qui travaillaient pour l'armée française, qui se retrouvent aujourd'hui sans visa et souvent en danger. À suivre aussi l'actu en série dans Un jour dans le monde, Sandy Dauphin au chevet de la planète. Ce soir, Sandy, vous traquez le greenwashing, ceux qui disent ce qu'ils font mais qui font semblant.
Une semaine après le sommet climat, l'ONG Les Amis de la Terre a épluché les promesses des banques françaises sur le climat et elle distribue, vous le verrez, les bons et les mauvais points.
Allez, on verra ça donc dans un instant. Merci, à tout de suite. La revue de presse des correspondants aussi, c'est à Rome et à Moscou aussi ce soir. Un jour dans le monde n'a pas fini, le monde est vaste. Yaeji, Drinking Man Spinning. Yaeji, sur France Inter. Elle est coréenne, dites-moi, ça vous a beaucoup plu, Florence Parakuelos?
Qui est Géania, dit-elle. Power Hit Radio. Magic FM.
Terra de la Tula. Desservi Prispo. 60 Minutes.
Et on va y aller, Florence Parakuelos, en Corée, mais pas tout de suite. Sous les radars, l'actualité internationale cachée dans les recoins que seuls vous connaissez. On commence par l'Algérie et la ville de Sétif, c'est à l'est du pays.
Nous sommes sur une artère emblématique de la ville. Il y a un attroupement devant une statue, c'est la fontaine Aïn El Fouara, la source jaillissante, représentée par une femme nue, telle un marbre antique. Les coups que vous entendez, c'est un homme qui s'acharne au burin sur les seins et le visage de la statue. L'homme est en camise blanc, la tenue des salafistes, il porte une barbe. Autour de lui, la foule lui jette des pierres et c'est la police qui finit par l'arrêter. La scène a eu lieu hier, elle a été filmée, elle a donc fait le tour des réseaux sociaux et la une des médias algériens. La tenue de l'homme au burin, sa volonté de défigurer la statue, tout cela, évidemment, fait penser à un acte islamiste, puisque la doctrine la plus rigoureuse interdit toute représentation humaine et qui plus est, évidemment, d'une femme nue. Indignation sur les réseaux. Certains Algériens comparent la scène aux destructions des talibans en Afghanistan ou à celle de Daesh à Palmyre. Mais la police déclare que l'homme est atteint de déficience mentale. En attendant d'en savoir plus sur ses motivations, le ministère de la Culture promet de restaurer la statue signée Francis de Saint-Vidal, un sculpteur français, installé cette statue sous la colonisation en 1899. Les Sétifiens y sont très attachés. Elle avait déjà été dynamitée, cette statue, pendant les années noires de la guerre civile en 97. Et figurez-vous qu'elle avait été, réparée en 48 heures à l'époque, après une incroyable mobilisation des habitants de la ville.
Ce sera donc la deuxième fois. Allez, la Corée maintenant, vie et mort d'une star de la K-pop.
Il s'appelait Kim Jong-hyun, il avait 27 ans, il s'est suicidé hier dans un hôtel de Séoul. Un jeune homme au visage féminin, la couleur de ses cheveux changeant au gré des tubes fabriqués par SM Entertainment, une usine à boys band. Le sien s'appelait Shiny, c'était l'un des plus populaires d'Asie. Cinq albums en 9 ans vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, des centaines de concerts, des dizaines de chorégraphies dansées au millimètre. Kim Jong-hyun, star modèle de la pop coréenne, soumise à des années d'entraînement, sommée de présenter constamment une image propre, de suivre les commandements des agents qui régentent les régimes, les téléphones et même parfois l'apparence de leurs poulains via la chirurgie esthétique. Ça se passe comme ça au pays de la performance. Ses fans sont inconsolables. Lui a laissé un mot avant de se tuer en faisant brûler une briquette de charbon dans une poêle. « Je suis cassé de l'intérieur, la dépression m'a englouti. Dites-moi, s'il vous plaît, que j'ai fait du bon boulot. »
Allez, avis aux amoureux de Gabriel Marcia Marquez, ses archives désormais sont accessibles sur Internet?
Eh ben oui, c'est l'université du Texas qui les met en ligne. Plus de 27 000 documents acquis après sa mort. Il y a notamment les manuscrits de 10 de ses romans, celui de son chef-d'œuvre, évidemment, 100 ans de solitude, tapé à la machine sur des feuilles perforées. On y voit ses corrections. On trouve également 32 pages inédites de ses mémoires dans lesquelles il parle de l'enfance, toute mon œuvre et dans les 8 premières années de ma vie. C'est ce que disait Garcia Marquez. La vie d'un petit Colombien devenu prix Nobel de littérature. On l'a parcours aussi dans des lettres et des photos entre souvenirs de famille, création littéraire, engagement politique. C'est assez jouissif, il faut le dire, de pouvoir accéder à cette documentation. On vous a mis le lien en ligne.
Absolument.
Sur la page
d'un jour dans le monde, voilà. Sur franceinter.fr. Donc allez-y, effectivement c'est jouissif, c'est très joli et c'est toujours instructif aussi. Merci beaucoup Florence Parakuelos.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tolo.
A Bombeshbayo.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et le reportage d'un jour dans le monde nous emmène en Afghanistan ce soir.
I'm disappointed. I'm disappointed why I did work for French forces.
Et voilà un homme déçu qui se dit déçu par les forces françaises. Nous sommes donc en Afghanistan avec des gens que les journalistes aussi connaissent bien, mais qui sont à plein temps, souvent avec l'armée, les interprètes, les traducteurs, indispensables, taillables et corvéables à merci souvent, et qui prennent des risques en se montrant avec les soldats. Ils ont travaillé pour l'armée française en Afghanistan avant qu'elle ne se retire fin 2014, et depuis, 152 de ces anciens interprètes et auxiliaires afghans ont vu leur demande de visa rejetée sans motif dans la plupart des cas. Bonjour Sonia Ghezali.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Sonia, ces hommes se disent menacés, ils sont forcés de déménager, disent-ils, plusieurs fois par an, de se cacher le visage. Parfois, lorsqu'ils sortent de chez eux, ils vivent dans la peur d'être assassinés pour avoir travaillé pour le drapeau tricolore. Ils lancent des appels multiples aux autorités françaises qui, pour l'instant, restent sans réponse. On écoute votre reportage à Kaboul.
Zeynoula a des traces marron sur son avant-bras droit et sur sa jambe du même côté. Des cicatrices de blessures par balle après que deux hommes à moto lui ont tiré dessus en juillet dernier alors qu'il arrosait son jardin. Depuis quelques semaines, il porte un large bandage à la cuisse gauche car un éclat lui a traversé la jambe. Cela s'est passé devant sa maison dans le nord de Kaboul.
Il était environ 16h. Il y avait un convoi américain devant ma maison. J'étais en train de discuter avec eux de mes problèmes de sécurité. Il y avait deux hommes à moto. Les gens disent que l'un d'eux a sauté de la moto et s'est enfui en courant. L'autre qui conduisait était le kamikaze. Il nous a visé, moi et les soldats de la coalition avec qui je discutais. L'instant d'après, j'ai vu deux corps sans vie au sol. J'étais blessé à la jambe gauche. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je me suis évanoui. On m'a conduit à l'hôpital.
Le père de famille de 28 ans est ensuite transporté dans un hôpital de la capitale. Pendant ce temps, dans son village, son jeune frère observe des hommes s'affairer devant leur portail.
Dans la soirée, des hommes fréquentant des écoles coraniques, des mosquées de villages voisins, des mollahs, sont venus ramasser les parties de son corps. Sa jambe, ses doigts. Mon frère m'a raconté qu'ils ont embrassé les mains du kamikaze qu'ils ont retrouvé par terre comme s'il s'agissait d'un martyr. Ils ont rassemblé tous les morceaux de son corps dans des foulards traditionnels qu'ils portaient en disant qu'ils allaient organiser ses funérailles.
Après cette attaque suicide dans laquelle il a été blessé, Zeynoula a témoigné dans les médias, de façon anonyme, ne montrant que le bas de son visage. Sur les réseaux sociaux, les messages de haine à son égard et à celui des anciens interprètes de l'armée française sont nombreux. Les insultes fusent, traîtres, espions pour les étrangers, les menaces de mort aussi. Zeynoula ne peut plus rentrer chez lui, il a dû fuir, chez des proches. Il y a une semaine à peine, des hommes à moto ont arrêté son petit frère qui se rendait à l'école pour le menacer, lui et sa famille. Les demandes de visa pour la France de cet ancien interprète de l'armée française ont été rejetées, sans motif, idem pour sa demande de protection. Fuir, changer de domicile sans cesse, c'est le quotidien de plusieurs anciens interprètes qui affirment être menacés pour avoir travaillé pour l'armée française. Caïs déplie une lettre de menace qu'il a reçue, par exemple.
Nous savons que vous avez travaillé avec l'armée française en tant qu'interprète à Tagab. Vous étiez un espion et maintenant vous êtes un espion pour l'ambassade de France. Vous êtes payé très cher pour cela. Ceci est le dernier avertissement que l'on vous donne. Rendez-vous à la commission des talibans et vous serez emprisonné. Si vous ne le faites pas, on vous tuera.
Le village de cet ex-interprète se trouve dans la Kapisa, à Tagab, district aujourd'hui sous le contrôle des talibans, qui ont la main mise sur près de 40% du territoire afghan. Il lui est impossible d'y retourner. À Kaboul, d'anciens interprètes expliquent devoir se cacher parfois derrière un voile, derrière des lunettes de soleil. Certains vont même jusqu'à se dissimuler sous une burqa lors de leur déplacement de peur d'être reconnus. À Kaboul, l'ambassade de France ne les reçoit pas. À Paris, les autorités françaises sont silencieuses. En 2015, elle n'avait donné que 2 mois aux interprètes et auxiliaires afghans pour déposer leur demande de visa. 252 dossiers ont été déposés, 100 personnes ont obtenu leur visa. Les autres sont soutenus par l'Association des interprètes afghans de l'armée française, dont la vice-présidente est maître Caroline Decroix.
Depuis 3 ans, qu'on explique aux autorités françaises que ces personnes-là font l'objet de menaces réelles, que les dispositifs qui ont été créés depuis 2015 n'ont pas été à même d'assurer leur protection. Ce sont des dispositifs carenciers, des dispositifs qui n'étaient pas publics, qui ont donné lieu à des décisions non motivées, des décisions arbitraires. Donc depuis quasiment 3 ans qu'on leur explique que le dispositif n'est pas à la hauteur de la nécessité de protection de ces personnels, c'est très compliqué d'être entendu par les autorités française. Manifestement, il y a un blocage terrible et une volonté de ne pas traiter les demandes de protection de ces personnes. Ces gens-là ne savent même même pas, si vous voulez, techniquement parlant, quel formulaire remplir, comment faire parvenir une demande de protection, puisqu'on ne trouve rien ni sur le site du ministère des Armées, ni sur le site de l'ambassade de France à Kaboul pour vous expliquer, quand vous êtes menacé et que vous avez travaillé avec l'armée française, comment pouvez-vous formaliser une demande de protection? Ces gens-là sont totalement démunis.
Adib veut être positif.
Moi, je crois sur la France parce que la France, c'est un premier pays dans la protection d'humanité, d'égalité, fraternité. Mais j'espère qu'un jour, on peut aller dans une situation vraiment protégée, comme la France.
En février 2016, durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué le sort des ex-interprètes dans un discours sur les harkis, ces combattants algériens engagés aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie.
Dire que les harkis ont été les victimes de la trahison de l'État français, que nous les avons abandonnés alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs, nous avons commis une faute comparable avec nos interprètes afghans. C'était une trahison.
Depuis son investiture, le président de la République n'a plus jamais parlé des anciens interprètes afghans. L'association a envoyé une lettre à l'Élysée. Elle est restée sans réponse à ce jour.
Sonia Ghezali en Afghanistan avec ses anciens interprètes afghans dans Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le mardi, l'environnement, signé Sandy Dauphin. Sandy, vous allez nous donner une petite leçon de greenwashing ce soir, en français dans le texte. Alors le greenwashing, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est quand on nettoie son entreprise en vert pour se donner bonne conscience, pour être très très au point sur l'environnement, mais en réalité, quand on gratte un peu la première couche de peinture, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'esbroufe. C'est un peu ça, non, Sandy?
C'est un peu ça.
Alors, après le sommet climat, justement, la semaine dernière, tous les grands financiers privés sont venus, la main sur le cœur, dire qu'ils allaient faire des efforts pour la planète, et voici que l'ONG Les Amis de la Terre a pris tout le monde au mot et décerne aujourd'hui quelques bonnets d'âne, notamment pour le Crédit Agricole et son greenwashing alors.
Oui, c'est bientôt Noël, mais quand même, personne ne s'attendait à ce que subitement les banques privées et publiques, les fonds de pension, les multinationales disent « Ok, on arrête d'exploiter jusqu'à la dernière goutte de pétrole, on va laisser 80% des énergies fossiles sous terre, c'est ce qu'il faudrait faire en gros pour parvenir à l'objectif de l'accord de Paris. » En revanche, c'est vrai qu'il y a eu des engagements pour moins investir dans le charbon, l'énergie fossile la plus polluante, ou bien se retirer des projets d'hydrocarbures les plus controversés, comme le gaz de schiste et les sables bitumineux.
Donc, sauf que certaines promesses sont plus vertes que d'autres.
Oui, l'association Les Amis de la Terre a épluché les engagements des banques françaises lors de ce sommet et elle accuse le Crédit Agricole de faire de beaux discours contre le réchauffement climatique sur Seine, mais en coulisses de soutenir indirectement un projet d'oléoduc très controversé aux États-Unis, le Keystone XL, relancé par Donald Trump. Lucie Pinson, chargée du secteur finance privée au sein de l'ONG Les Amis de la Terre.
Crédit Agricole, quelques jours avant le One Planet Summit, s'est engagé à ne plus financer de projets de sable bitumineux, sachant qu'aux États-Unis, il y a 3 énormes projets de pipeline de sable bitumineux qui sont prévus, notamment le fameux Keystone XL qui a été relancé par l'administration Trump dès son arrivée au pouvoir. Le problème, c'est qu'on vient d'apprendre que vendredi dernier, donc juste une semaine après avoir pris ses engagements, Crédit Agricole a financé l'entreprise qui porte le Keystone XL, qui se trouve derrière le Keystone XL, l'entreprise TransCanada.
Alors, la parole à la défense quand même, Sandy. Le Crédit Agricole, qu'est-ce qu'il répond ?
Eh bien, il répond que les accusations de l'ONG sont caricaturales. La Banque française fait de gros efforts dans le secteur des énergies renouvelables, 100 milliards d'euros d'ici 2020. Elle est leader mondial des Green Bonds, ces obligations qui servent à financer des projets verts. Le Crédit Agricole a également tourné le dos au charbon et au pétrole de l'Arctique. En revanche, pas question, en effet, d'arrêter de financer TransCanada, l'entreprise qui porte le projet d'oléoduc. L'argument avancé, eh bien les sables bitumineux ne sont pas l'activité majoritaire du géant pétrolier. La banque française avance aussi un principe de réalité. Si on se retire d'autres banques, les Japonais, les Russes, moins scrupuleux sur les questions climatiques, vont occuper le terrain.
Voilà, donc si c'est pas nous, c'est les autres, et si on se résume, toutes les banques font pareil.
Eh bien, l'association Les Amis de la Terre estime que certaines vont quand même plus loin que d'autres, au risque de perdre des clients. Elle décerne un bon point à l'assureur AXA et à la BNP. BNP Paribas a arrêté de financer des projets de sable bitumineux et de gaz de schiste, mais elle a également pris des engagements concernant les entreprises de ces secteurs.
Allez, Sandy Dauphin qui gratte la peinture verte ce soir dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à très vite. Voici Aerosmith, Walk This Way. Ici, nous dit Aerosmith, Walk This Way sur France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
Les correspondants de France Inter à l'étranger qui lisent la presse en VO pour nous, la revue de presse le mercredi commence en Italie. Bonsoir Rome, bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, la presse a fort à parier avec une avec une dépouille en ce moment, c'est celle de Victor Emmanuel III.
Oui, une dépouille encombrante, celle de l'ancien roi d'Italie, 1900-1946, banni de son pays pour collaboration avec le régime fasciste, mort en exil, Victor Emmanuel III. La maison de Savoie a obtenu le rapatriement de la dépouille en Italie, mais une partie de la famille royale réclame davantage que Victor Emmanuel III soit enterré au Panthéon. Cette revendication, publiée dans les colonnes du Corriere della Sera, le premier quotidien italien, a soulevé une vaste fronde des historiens et éditorialistes. En résumé, un roi qui a accepté le fascisme et promulgué des lois raciales n'a pas sa place dans le temple romain. La communauté juive s'est mobilisée aussi, ainsi que les anciens combattants. Et le ministre de la Culture a tranché hier, le Panthéon, jamais. La dépouille de Victor Emmanuel III ne bougera pas du mausolée familial à Cuneo, dans le Piémont.
Et comme ça c'est dit, le nord de l'Italie, on y reste. L'extrême droite est arrivée au gouvernement en Autriche, on l'a vu tout à l'heure dans Un jour dans le monde, avec de grands projets pour l'Italie germanophone.
Oui, Oui, le nouveau gouvernement entend attribuer le passeport autrichien aux habitants de la région du Haut-Adige, les habitants germanophones, soit 70% de la population de cette région italienne. Ce qui voudrait dire, par exemple, que les athlètes du Haut-Adige pourraient concourir aux compétitions sous le drapeau autrichien. Les réactions ne se sont pas fait attendre dans la presse et sur le net. Antonio Tajani, le président italien du Parlement européen, dénonce une démarche velléitaire. Un ministre évoque le retour dangereux des considérations ethniques. Mais il n'y a pas que la question des passeports qui préoccupe l'Italie. Il y a aussi la divergence de point de vue entre Rome et Vienne sur les migrants. Une inquiétude relayée par Sandro Gozzi, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Le minimum syndical, dit-il, est que chaque pays respecte les quotas de réfugiés qui lui ont été attribués. Nous le rappellerons au nouveau gouvernement autrichien, avertit ce ministre très europhile dans une interview au quotidien La Stampa.
Allez, enfin Mathilde, un décès à déplorer, c'est celui du sapin de Noël de la Piazza Venezia à Rome.
Oui, l'annonce est tombée hier soir, Fabienne, de la commune de Rome. Le sapin installé Piazza Venezia est sec, mort, il ne passera pas Noël.
Déjà ?
Oui, déjà, et ce sapin dont tout Rome hein, s'est moqué, même toute l'Italie, on peut le dire, il a été rebaptisé Spellacchio. On pourrait traduire par dégarni, pelé, tant ses branches maigrelettes faisaient peine. Il déchaîne les réseaux sociaux, Spellacchio, un tweetos très drôle anime un compte au nom du sapin. On lance pour Spellacchio une fausse campagne de dons de boules de Noël et de décorations pour lui remonter le moral. On appelle à le libérer sous le hashtag « Je suis Spellacchio ». Les médias font intervenir les experts de la péninsule et ce matin, le diagnostic a été posé de manière très claire par les botanistes de sa région d'origine. Spellacchio a subi un stress trop important lors de son transfert à Rome et il n'y a pas survécu.
Et ben voilà, mon esprit de Noël saigne en vous écoutant. Mathilde Imberti à Rome, merci beaucoup. Bonsoir Moscou, bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir.
Claude, à l'approche des fêtes de fin d'année, voilà que le conflit dans le Donbass, qui entre dans sa cinquième année, ce conflit ressurgit. D'abord, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans la perspective d'un échange de prisonniers, mais surtout avec le retrait des officiers russes qui quittent ce qu'on appelle l'organe commun de contrôle de la ligne de front, un départ qui suscite une certaine inquiétude dans les médias russes.
Oui, les médias indépendants, notamment comme le site Gazeta, pensent effectivement que le départ des militaires russes va sérieusement accentuer les tensions déjà existantes entre les séparatistes pro-russes et l'armée régulière ukrainienne. Ce centre d'observation russo-ukrainien avait été créé suite à un accord entre Petro Poroshenko et Vladimir Poutine. Son objectif était de coordonner les différentes périodes de cessez-le-feu et d'éviter autant que possible que la ligne de front ne se déplace ou ne s'étende de part et d'autre de la zone de contact entre les deux contingents armés. Alors pour justifier son renoncement, eh bien l'état-major de l'armée à Moscou évoque aussi à travers la presse russe, je cite, un comportement agressif et irrespectueux des militaires ukrainiens vis-à-vis de leurs homologues russes.
Et alors que disent les médias chez vous, Claude, de la suite du scénario? En clair, est-ce que le cessez-le-feu qui est déjà très difficilement, qui se respecte très difficilement, peut carrément devenir impossible à tenir?
Alors, d'après Izvestia, cette fois un média proche du Kremlin et qui n'a qu'une seule source, en l'occurrence les séparatistes pro-russes, maintenant que l'armée russe n'a plus de représentants officiels pour contrôler la ligne de front avec les Ukrainiens, il est à craindre que l'armée de Kiev ne profite de la situation. Izvestia cite un leader séparatiste pro-russe, Edouard Bazourine, qui constate que l'incapacité de Kiev à garantir la sécurité des officiers russes sur le départ, et il ajoute que cette présence jusque-là empêchait, selon lui, l'armée ukrainienne d'intensifier ces bombardements, sous-entendu, cette fois, plus personne ne pourra l'en empêcher. Sur le versant diplomatique russe maintenant, on essaie toutefois de calmer le jeu, toujours dans les Izvestia, en rappelant que les contacts ne cessent pas totalement avec la partie ukrainienne. Simplement, les communications, quand elles seront nécessaires, s'effectueront sous forme de conférences téléphoniques. Un sujet de préoccupation supplémentaire en tous les cas pour le groupe de contact composé de l'Ukraine, de la Russie, de l'Allemagne et de la France qui se réunit demain à Minsk à l'origine pour traiter donc de l'accord sur les échanges de prisonniers à l'approche des fêtes.
Claude Brouillot, correspondant de France Inter à Moscou, merci beaucoup. Christophe Ayad du journal Le Monde est là. L'édito d'un jour dans le monde. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Christophe, vous avez écouté Emmanuel Macron à la télévision, c'était ce week-end, comme beaucoup de gens, et notamment, il a parlé de la Syrie.
Oui Fabienne, je l'ai bien écouté et j'ai entendu cette formule qu'il répète aussi souvent que possible. Je cite « Notre ennemi est Daesh, Bachar el-Assad, lui, est l'ennemi du peuple syrien ». La formule n'est d'ailleurs pas de Macron, c'est Jean-Yves Le Drian qui l'a inventée au temps où il était ministre de la Défense de François Hollande. Maintenant, il s'occupe de la diplomatie d'Emmanuel Macron et il a le mérite d'être cohérent. Donc, cette phrase « Notre ennemi est Daesh, Bachar el-Assad est l'ennemi du peuple syrien », qu'est-ce qu'elle signifie? Elle dit en fait que notre intérêt, ce n'est pas de combattre le régime de Bachar el-Assad, qui n'a rien fait à la France, mais de combattre Daesh, qui a commis des attentats à Paris, à Saint-Denis, à Nice et ailleurs. Pour le public français, c'est une évidence, du moins en apparence.
Alors, Christophe, pourquoi en apparence ?
Parce que Fabienne, si vous vous souvenez bien des attentats de Paris et Saint-Denis, vous savez aussi que les kamikazes qui les ont menés sont presque tous venus de Syrie par la route des migrants en 2015. Pendant toute cette année-là, des centaines de milliers de Syriens ont fui leur pays ou les camps de réfugiés en Turquie et au Liban pour traverser la Méditerranée, pour passer en Grèce, poursuivre leur chemin à travers la Hongrie, l'Autriche et enfin arriver en Allemagne pour certains, en Suède pour d'autres et en Belgique ou en France dans le cas de ces terroristes. Et qui a poussé tous ces Syriens sur les routes ? Qui a chassé de son pays 5 millions d'habitants sur 28 millions ? C'est Bachar el-Assad. C'est lui qui a déstabilisé ses voisins et l'Europe en usant d'une violence sans limite. Les effets s'en font sentir jusqu'à aujourd'hui, puisque les scores électoraux des populistes et de l'extrême droite, en Allemagne ou en Autriche par exemple, trouvent leur source dans cette crise des migrants, qui est en fait une crise de la Syrie. J'ajouterai qu'au tout début de la révolution, en 2011, le régime syrien a fait sortir de prison des djihadistes pour mieux semer la confusion au sein de l'opposition. Et que pendant longtemps, la priorité de Bachar el-Assad a été de combattre ses opposants armés bien plus que les djihadistes qui ont bénéficié d'une relative tranquillité. Donc Assad est bien un problème pour la France aussi.
Et donc on en revient à la première question, est-ce qu'il faut parler à Bachar el-Assad ?
Ben là encore Fabienne, Emmanuel Macron, il joue sur les mots et il fait un peu de démagogie en cherchant à marquer sa différence par rapport à François Hollande. C'est de bonne guerre, mais déjà il faudrait définir ce que veut dire « parler avec Assad ». Parler de quoi ? Dans quel but ? Dans quel cadre ? À quelles conditions ? Est-ce qu'on rouvre une ambassade ou pas ? On peut pas dire, comme l'a régulièrement fait le président Macron, que Bachar el-Assad est un boucher et entretenir un dialogue normal avec lui. Ou alors, on parle de la boucherie dont il est responsable et donc du fait qu'ils doivent rendre des comptes et donc de son départ du pouvoir. Pour Assad, il est hors de question de parler de ça. D'ailleurs, il a envoyé paître Emmanuel Macron et sa petite ouverture. Le président syrien n'est prêt à aucune concession, ni sur l'aide humanitaire, ni sur les armes chimiques, les deux lignes rouges définies par Macron en Syrie pourtant, ni même sur un partage du pouvoir comme l'a prouvé sa politique de la chaise vide aux négociations de Genève. Bref, on en revient toujours à la case départ.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Mais il faut surtout parler avec ceux qui ont le vrai pouvoir en Syrie, la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, parce que même eux n'ont pas forcément le dernier mot, et le régime syrien est très fort pour jouer de ses parrains les uns contre les autres. La semaine dernière, Vladimir Poutine s'est invité à l'attaquer sur la base russe en Syrie pour annoncer le départ de ses troupes, du moins d'une partie d'entre elles. Cette humiliation du président syrien, qui a été traité comme un invité dans son propre pays, était destinée, entre autres, à faire comprendre à Assad qu'il était temps de négocier, de faire des concessions. Bachar, lui, il a encaissé sans broncher, mais il a continué de dire qu'il n'avait rien à négocier. On n'en a pas fini avec Bachar el-Assad.
Merci beaucoup, Christophe Ayad, dans Un jour dans le monde, chef du service international du journal Le Monde. La suite, c'est le 19h de Sébastien Paour, et puis le téléphone sonne.